Le MEDEF demande au gouvernement de débloquer le port de Marseille. À Nice, le lycéen de 16 ans qui en a poignardé un autre hier en pleine rue doit être présenté au parquet cet après-midi. Le procureur indique qu'il a agi par vengeance. Il a poignardé un autre élève âgé de 15 ans, un élève qu'il avait dénoncé l'an dernier après l'avoir vu jeter un cocktail Molotov sur la voiture du principal de l'établissement dans lequel ils étaient scolarisés tous les deux. Ce geste lui avait valu d'être exclu du collège. L'adolescent qui a reçu 7 coups de couteau hier est désormais hors de danger. On va maintenant à la Bourse de Paris pour faire un nouveau point.
La Bourse, avec Union Financière de France, Banque Conseil en création et gestion de patrimoine.
Et c'est toujours la baisse, Vincent Mezeau, à la Bourse.
Eh bien oui, Claire, la correction se poursuit à la Bourse de Paris, mais à un rythme plus mesuré que ces derniers jours. Le CAC 40, qui s'était affaissé de près de 2,5% de séance, ne cède actuellement que 0,38% à 4519 points dans des volumes de 2 milliards d'euros. Toutes les places européennes s'affichent en repli. L'euro First 80 se contracte de 0,46%. Sur le marché d'échange, l'euro s'apprécie de 0,72% à 1,2149, alors qu'aux États-Unis seront communiqués à 14h30 les chiffres de l'emploi de septembre. Les investisseurs tablent en moyenne sur 130 000 suppressions de postes. Il s'agirait en la circonstance de l'un des principaux dégâts collatéraux des ouragans Katrina et Rita. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 472 $ et le CAC 40 lui cède maintenant 0,37% à 4520 points. La Bourse de Paris, Vincent Mezeau pour France Inter.
Merci Vincent. Vous écoutez France Inter. Il est 14h03. C'est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour. Aujourd'hui, les empereurs romains. Je serai avec les autres comme je voudrais que l'empereur fût avec moi si j'étais simple citoyen. Trajan, empereur romain de 98 à 117 après Jésus-Christ. D'histoire. Depuis Auguste, il y a plus de 2000 ans, jusqu'à l'abdication de Romulus Augustule en 476 après Jésus-Christ, Rome a connu 82 empereurs. Mais si tout le monde a entendu parler de la folie de Néron qui chantait devant l'incendie de Rome, de celle de Caligula qui voulait faire de son cheval un consul, ou de la cruauté du mal-nommé Commode, et si Auguste, Trajan, Antonin, Adrien, Dioclétien, ou l'empereur philosophe Marc Aurèle ont laissé un meilleur souvenir, on oublie souvent quels étaient les pouvoirs de ces hommes qui, pendant 5 siècles, ont régné sur un immense empire qui, à l'époque de Trajan, allait de l'Atlantique à l'océan Indien et des cataractes du Nil jusqu'à la mer du Nord.
Dieu de Rome, puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour. Mars, dieu de la guerre. Jupiter, père de tous les dieux. Et Néron, son divin fils.
Stéphane Benoît, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université de Metz et auteur d'un livre, Rome, le prince et la cité, qui vient de sortir aux presses universitaires de France. Je vous ai vu, évidemment, vous, le spécialiste, sourire un petit peu en écoutant ces péplums plus ou moins fantaisistes.
Oui, mais qui donnent quand même une certaine réalité, un peu de chair à cette histoire qu'on méconnaît souvent. Disons que simplement l'apostrophe des différents dieux et la reprise « nous adorons » fait sourire un historien. De Rome, oui, mais bon, ça ressemble un petit peu à la lecture chrétienne de ce genre de rituel.
Ceci, c'est quand même grâce à ces péplums qu'on connaît souvent, vous le disiez, l'histoire de Rome, de ses empereurs, en oubliant quand même, et j'aimerais qu'on en parle avec vous aujourd'hui, quels étaient leurs pouvoirs réels, comment ils se transmettaient le pouvoir, et en oubliant aussi d'ailleurs autre chose, c'est que Rome était déjà un empire avant d'avoir un empereur.
Tout à fait. C'est une cité qui conquiert progressivement de la fin du IIIe siècle à la fin du Ier siècle avant notre ère de nombreux territoires. Et c'est justement ces territoires, cet imperium, cet empire, qui provoque les difficultés des dernières décennies de la République et favorise le passage à l'empire.
Le mot empereur, d'ailleurs, impérator, existait déjà avant qu'existe l'Empire romain.
Tout à fait. C'est ainsi que les soldats sur le champ de bataille acclamaient leur général vainqueur et ainsi favorisait sa marche vers le triomphe.
Alors ça, c'était à l'époque de la République, qui était gouvernée par des institutions que les empereurs romains d'ailleurs conserveront, que ce soit les magistrats, les plus importants étant bien sûr les consuls. Il y avait des assemblées qu'on appelait les comices. Il y avait aussi la plus haute des assemblées qui était le Sénat. Tout ça, d'ailleurs, assez curieusement, les empereurs vont le garder.
Oui, c'est l'ambiguïté première du régime avec Auguste, c'est la volonté finalement de, comme l'affirment les inscriptions, de restaurer la République, mais désormais avec un personnage qui a des pouvoirs tout à fait exceptionnels, mais au sein des institutions traditionnelles.
Alors ces institutions se sont méfiées pendant longtemps de tous les hommes, de tous les généraux qui pouvaient rêver justement de créer un empire à leur profit. Ce sera le cas avec Marius, avec Sylla, avec Pompée, avec Jules César, qui d'ailleurs sera même assassiné parce qu'on le soupçonnait de vouloir devenir empereur. Et c'est ce fils de César qui, justement, Octave, qui en 27 avant Jésus-Christ, en prenant le nom d'Auguste, devient, on peut le dire, le premier empereur. À quoi correspond ce passage à ce qu'on peut désormais appeler l'Empire? Est-ce que c'est l'ambition d'un homme, Auguste, ou est-ce que c'est une nécessité?
Disons que c'est à la fois une ambition et une nécessité. Je crois que c'est l'échec de son père adoptif qui le rend prêt à transformer les institutions républicaines, à attirer à lui un certain nombre de pouvoirs, justement non pas parce que son père a échoué en voulant être empereur, mais bien roi, ce qui était pour les Romains l'abomination des abominations, car c'était le souvenir de la domination étrusque dans la cité, et la venue de la République en 509 est présentée comme l'avènement de la cité et de ses institutions et de son fonctionnement plus ou moins idéal.
Alors Octave devient Auguste, il prend aussi le titre de César. Tous les empereurs d'ailleurs vont prendre le nom de César.
Oui, pour lui c'est ainsi prétendre à la succession de son père, puisqu'il a été adopté par voie testamentaire par César, et donc il porte ce qui était d'abord le surnom de son père, qui était un Jules, il le porte désormais comme nom, et il le lègue à tous ses successeurs, et cela devient en quelque sorte le nom courant de tous les princes. Et les sources nous parlent la plupart du temps des Césars.
Alors justement, là vous parlez de succession, Stéphane Benoît, comment se transmettait-on le pouvoir d'un empereur à l'autre? Est-ce qu'il s'agissait d'un système héréditaire, un peu comme dans nos anciennes monarchies de l'Ancien Régime?
Alors, ce n'est absolument pas un système héréditaire, même si nous constatons que un certain nombre de fils de princes vont succéder à leur père, mais toute la difficulté dans un régime qui n'est pas une monarchie, fondamentalement, c'est de prévoir sa succession, et par exemple en s'associant de son vivant un successeur potentiel, qu'il soit lié par le sang ou non, et en partageant avec lui les pouvoirs.
Repose, Tibère César. Ave Caligula César.
Désormais tu es César.
César.
César. Empereur de Rome et maître du monde.
Maître du monde. Sachez que j'existe depuis le matin du monde et que je ne m'éteindrai qu'à la chute de la dernière étoile. Bien que j'ai revêtu la forme de Gaius Caligula, je suis tous les hommes sans en être aucun. Aussi bien suis-je de ce fait un dieu.
C'était l'avènement de Caligula en 37 après Jésus-Christ, troisième empereur de Rome après Auguste, après Tibère. Voilà Caligula, fils adoptif de Tibère, comme Tibère l'était de Auguste. Caligula qui n'a pas laissé un excellent souvenir dans l'histoire de Rome. Caligula d'ailleurs c'était son surnom, hein, le nom sous lequel il a régné, je l'ai sous les titres, c'est ce qu'on appelle la la titulature, c'est-à-dire l'ensemble des titres qu'il portait, c'était Caius César, Germanicus, Augustus Imperator, puis il y en a eu d'autres d'ailleurs. Tous ces titres avaient une signification, tous ces titres comportaient tous les empereurs, Stéphane Benoît.
Oui, c'est-à-dire que vous avez à la fois les dénominations personnelles, les noms qui viennent de leur parents, selon traditionnellement une composition, vous avez un prénom, un nom et un surnom, et s'ajoute une sorte de dénomination générique pour l'ensemble des princes, où vous avez un prénom impérator, donc qui rappelle ce lien à l'imperium et à la victoire. Vous avez le nom qui rappelle l'origine même du principat César, et vous avez ce fameux surnom qu'Octave a reçu en janvier 27, Auguste, et qui donne une certaine dimension sacrale au personnage.
Oui, au fond, par exemple, Impérator, c'était le titre, vous l'avez dit, qu'on donnait du temps de la République aux généraux victorieux. Ça veut dire, grosso modo, que c'est justement le titre qui permet à l'empereur d'assumer le pouvoir militaire. Il gouverne, c'est un de ses pouvoirs, il gouverne sur l'ensemble des armées. Quels étaient les pouvoirs réels, justement, de ces empereurs?
Eh bien, ce sont des pouvoirs qui sont tirés des magistratures de l'époque républicaine, et notamment donc l'imperium, qui est le pouvoir des magistrats supérieurs, consuls, prêteurs. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle la puissance tribunicienne, qui a été tirée des pouvoirs des tribuns de la plèbe, ce qui permettait donc au même homme de jouer à la fois le rôle de défenseur du peuple de Rome et de principal magistrat et, comme vous l'avez dit, dominant l'ensemble des armées, ce qui est le privilège, en fait, des princes depuis Auguste.
Il nommait aussi les gouverneurs des provinces, je crois. Il proposait des lois ou des édits, c'est ça?
Oui, oui. Il a un pouvoir normatif qui n'a cessé de se renforcer, et on a pu dire d'ailleurs que à partir du IIIe siècle, on a une formule qu'on retrouve dans les codes juridique tardif, que l'empereur, c'est la loi. Il fait la loi, et on retrouve là nos formules dans les monarchies d'Occident, lex et rex, le jeu sur le roi et la loi.
Alors les empereurs romains, cela dit, ont quand même gouverné pendant 5 siècles, c'est avec une conception du pouvoir qui était variable selon les époques, selon les empereurs. Il y avait au début, sous Auguste, ce qu'on appelait le principat, hein, c'est-à-dire que Auguste, c'était le princeps, le premier des sénateurs, c'est ça?
Exactement. Dès 28, donc avant même de s'appeler Auguste, il a reçu ce privilège. Les sénateurs, qui n'avaient guère le choix d'ailleurs, lui ont voté ce titre qui, en fait, lui permettait concrètement d'intervenir toujours le premier parmi les sénateurs, donc concrètement de diriger les débats, ce qui est essentiel pour proposer, comme vous l'avez dit, un certain nombre de textes qui, désormais, à partir de son règne, ce qui n'était pas le cas sous la République, ont force de loi. Les fameux sénatus consultes.
Alors il y a eu des pouvoirs, parce que là au fond il était le premier des sénateurs, un parmi d'autres, mais le premier, mais il y a eu des pouvoirs véritablement beaucoup plus absolutistes. Plus tard, il y a eu des époques où vraiment il disposait d'un pouvoir absolu, et même divin, on l'a entendu, je crois qu'il y a 3 empereurs qui se sont même carrément pris ou considérés comme des dieux, c'était, on l'a entendu, Caligula, ça a été Néron, ça a été Commode.
Oui, c'est-à-dire que la dimension divine des princes est assez tôt apparu, notamment dès les années du triumvirat, puisque les triumvirs, et notamment donc le futur Auguste, ont souhaité diviniser César lui-même, et qui est devenu le divin Jules. Et cette prétention, en quelque sorte, à la divinité, peut tourner la tête de certains princes dès leur règne. Mais bon, on s'aperçoit quand même que les Romains ne sont pas dupes et distinguent bien les empereurs morts et divinisés normalement des prétentions de certains des empereurs durant leur règne.
Mort, pas toujours de mort naturelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même hallucinant quand on voit la liste de ces 82 empereurs, notamment les 12 premiers. Je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont morts de mort naturelle. Tous les autres ont été assassinés, ont été suicidés. Enfin, c'était un métier à risque, le métier d'empereur, Stéphane Benoît.
Effectivement, et il faut constater, vous avez encore un exemple plus brutal, qui est la succession très rapide des empereurs au IIIe siècle, avec un certain nombre d'empereurs soldats, dits soldats, qui souvent prennent la pourpre et se voient contraints de la quitter assez rapidement, parfois en 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais c'est un métier, comme vous dites, à risque, mais qui visiblement suscitait quand même pas mal de vocations.
Peut-être demander d'ailleurs, oui, peut-être, mais enfin, vraiment, il y avait des raisons aussi d'hésiter. Je crois qu'il y a des empereurs d'ailleurs qui ont hésité, qui ont eu peur de devenir empereur. Claude, je crois, non ?
Oui, enfin, la situation de Claude est un peu paradoxale, c'est-à-dire que comme durant une grande
successeur
partie
de Caligula,
voilà, durant une grande partie de sa vie, il est plutôt considéré comme le rejeton un peu mal formé de la famille et a été mis à l'écart dès l'époque d'Auguste. Donc c'est quelqu'un qui apparemment n'était pas destiné à la pourpre. Et puis les hasards des successions le conduisent à être finalement destiné empereur et désigné par les prétoriens à un moment où, déjà avancé en âge, il ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle mauvaise plaisanterie à son endroit.
Vous avez employé un mot important, Stéphane Benoît, c'est prétorien. La garde prétorienne, c'est celle qui était chargée de la protection de l'empereur. C'est ça, c'était une partie de l'armée qui était chargée de la protection de l'empereur.
Oui, dès Auguste, il a souhaité détacher quelques cohortes qui sont finalement placées dans une position de contrôle de la cité de Rome et surtout de protection rapprochée de l'empereur, ce qui veut dire dans certains cas d'acteurs majeurs dans les successions impériales.
Et ça, de façon générale, c'est le cas de l'armée, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe dans cet empire, on l'a dit, c'est un pouvoir absolu tempéré par l'assassinat, c'est aussi un pouvoir absolu qui est tempéré par le coup d'État, par des putschs. Au fur et à mesure que le temps passe dans cet empire, c'est l'armée qui va désigner les empereurs.
Effectivement. Et on s'aperçoit quand même que c'est assez tôt, finalement, comme le remarque Tacite lui-même dans ses histoires, qu'on fait l'empereur, comme il le dit en fait, hors de Rome. Et dès la crise de 68-69, à la fin du règne de Néron, les premiers compétiteurs sont désignés par leurs armes. Mais que ce soit par exemple Vitellius sur la frontière du Rhin ou Vespasien en Orient.
Et là, le Sénat joue plus aucun rôle, en fait. Maintenant, le pouvoir, il est vraiment détenu, bon, par l'empereur, mais l'empereur lui-même le tient de l'armée.
Oui, mais d'une certaine façon, peut-être est-ce le traditionnalisme des Romains, on joue avec les formes et on prend quand même la plupart du temps soin que le Sénat puisse confirmer les pouvoirs du prince, même s'il n'a guère le choix, effectivement. Et on a un épisode qui est célèbre en début du IIIe siècle, lors de ce qu'on a appelé le début de la crise de l'Empire, entre 235 et 238, et le règne d'un empereur qui n'a pas pris la peine de venir à Rome et qui, finalement, y a perdu la pourpre, c'est Maximin le trace.
La pourpre, c'était l'uniforme de l'empereur, si je puis dire.
Oui, on peut, c'est ce qui, là encore, le désigne en tant que toujours victorieux, paré de ce pouvoir.
Et cela dans un empire dont les citoyens et les empereurs, d'ailleurs, n'étaient pendant longtemps que des Romains de la ville de Rome, jusqu'à ce que, sous Caracalla, en 212, elle soit étendue, cette citoyenneté, à tous les habitants libres de toutes les provinces de l'empire.
Proconsul, gouverneur, vous êtes venu des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issus de races différentes, vos mœurs et vos costumes ne se ressemblent guère, vous avez chacun votre langue et vos chants, vous n'adorez pas les mêmes dieux, et pourtant, vous êtes tous les ramifications d'un même tronc, puissante et tutélaire. Rome, quel que soit votre pays, quelle que soit la couleur de votre peau, la paix, une fois rétablie, vous conférera à tous les droits suprêmes qui sont les privilèges des citoyens romains. Plus de provinces, plus de colonies, rien que Rome. Rome sera partout une famille de peuples égaux. Tel doit être l'avenir.
Quel est l'empereur, vous qui savez tout, Stéphane Benoît, qui prononce les mots que l'on vient d'entendre?
Alors, il s'agit de Marc Aurèle, qui est sur la frontière, en pleine campagne militaire. Alors, c'est un discours qui est finalement très révélateur, me semble-t-il, dans ce beau péplum sur la chute de l'Empire romain.
Oui, ça vous connaissez tous sur les péplums. Péplum d'Anthony Mann.
Voilà, c'est un très beau film, mais finalement, dans ce discours qui ne correspond pas au moment où la citoyenneté va être donnée à l'ensemble des hommes libres de l'Empire, qui anticipe en quelque sorte, mais qui est finalement très révélateur du poids du stoïcisme parmi les élites de Rome depuis le 1er siècle. On le voit dans les écrits de Sénèque au 1er siècle et dans les propos de Marc Aurèle lui-même. Et cet aspect se retrouve dans la législation impériale au début du 3e siècle. Et un des grands juristes de l'époque sévérienne, Ulpien, est tout imprégné de cette volonté d'ouvrir en fait la citoyenneté, une sorte d'égalitarisme, enfin de prétention à l'égalité.
C'est extraordinaire, on l'oublie toujours, c'est 900 ans après la création de Rome, c'est 200 ans, plus de 200 ans après la proclamation de l'Empire, qu'on a donné la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire, tous les habitants libres, hein, il faut préciser.
Absolument.
C'est-à-dire pas les esclaves.
Ni les affranchis qui, théoriquement, ont une accession à la citoyenneté qui est différée. C'est-à-dire que c'est essentiellement leurs enfants, leurs fils, qui peuvent devenir directement citoyens de plein droit, avec tout l'exercice que comporte la citoyenneté. Mais cela peut paraître un phénomène très lent, mais c'est une conception, finalement, extrêmement avancée pour l'époque. Les cités antiques de l'époque grecque, par exemple, étant beaucoup plus chiches de leur citoyenneté.
C'est un peu normal. Les soldats qui se battaient pour la défense de Rome, ils appartenaient à l'ensemble de l'Empire. Ils venaient de toutes les provinces, on l'a entendu d'ailleurs, de l'Empire. Et cela dans un empire d'ailleurs tellement vaste et avec une charge tellement écrasante pour les empereurs qu'au 4e siècle, un autre empereur, Dioclétien, fait adopter alors une réforme considérable qui va permettre à 4 empereurs, si j'ai bien compris, de gouverner en même temps. C'est ce qu'on appelle la tétrarchie, c'est ça?
Voilà, c'est un moment où les difficultés de l'Empire sur ses différentes frontières, que ce soit en Orient ou en Occident, ont rendu tout à fait nécessaire la multiplication finalement des titulaires de la charge impériale, non pas tant au début de la réforme de Dioclétien, donc à partir de 285, on commence par une diarchie, il s'associe à un Auguste Maximien, et puis à partir de 293, vous avez 2 Césars, chacun son César.
Il faut préciser que sur ces 4, il y en avait 2 qui étaient un peu supérieurs et qu'on appelait les Augustes,
voilà.
Et 2 qui avaient un rang inférieur, qui étaient plus jeunes, qu'on appelait les Césars. Hein.
Les Césars, et donc nous avons notamment le père du futur Constantin, Constance, Diclore, et puis Galère, et ces Césars sont en fait destinés à devenir eux-mêmes augustes. Et cela permet effectivement, si une campagne militaire doit être menée, et notamment s'il est nécessaire de répondre à une invasion de la manière la plus rapide possible, de détacher un empereur pour s'occuper d'un front militaire sans qu'il soit encore question d'un partage territorial. L'Empire est unique, mais il a un collège qui comprend 4 membres.
Alors ça, c'est une réforme entreprise par Dioclétien qui va également limiter les pouvoirs des empereurs dans le temps. En tout cas, il a voulu le faire. C'était quand même un empereur pas mal. Hein. Il considérait qu'il fallait pas être trop vieux pour gouverner l'Empire. Il disait que les augustes, c'est-à-dire les principaux empereurs, devaient gouverner au maximum 20 ans. Et puis alors, quand même, il prenait un risque de voir les empereurs s'affronter, puisqu'il y en avait plusieurs en même temps, comme l'ont fait en 312, 2 empereurs, justement, Maxence et Constantin, au moment où le christianisme était devenu la religion la plus importante de l'Empire.
Le temps progresse, ô divin empereur, dirais-je demain. Insensé celui qui veut l'arrêter par la force. Sage celui qui le précède par la pensée. Maxence, tu veux que ton nom reste glorieux dans les siècles à venir. Protège les chrétiens.
S'il n'est pas devenu fou, alors c'est un traître.
Déjà, si tu fais le jeu de Constantin, pas bien. Non, je cherche à sauver Maxence. Je voudrais l'empêcher d'être dépassé par Constantin.
Constantin, comme un signe de son armée, a choisi la croix du Christ.
C'était toujours tiré d'un péplum, un des moments les plus importants de l'histoire de Rome en 312, et cela 300 ans après la naissance de l'Empire, Constantin qui redevient empereur unique, mais surtout c'est capital, qui fait du christianisme la religion des Romains.
Voilà, dans cet épisode, on est quasiment aux portes de la bataille décisive dite du pont Milvius, où les armées de Constantin arrivent sur Rome et où Maxence tente de défendre son pouvoir. L'un comme l'autre sont des fils d'empereur, et c'est bien ce problème de une fois de plus de l'accession à l'Empire qui s'est posé, et le système tétrarchique s'est grippé par les ambitions des empereurs.
Autre chose considérable grave, Stéphane Benoît, il choisit de déplacer la capitale à Constantinople. En fait, on l'oublie toujours, à la fin de l'Empire, la capitale n'était plus Rome. En tout cas, c'était plus le siège, c'était plus l'endroit où vivaient les empereurs.
Voilà, c'est un phénomène qui s'est finalement développé progressivement au cours du IIIe siècle, toujours dans la perspective de défendre au plus près des champs de bataille l'Empire. Et donc la cité de Rome devenait un peu trop lointaine par rapport aux principaux axes de la politique militaire. Et Constantin décide donc de créer une deuxième Rome, et c'est le terme d'une forme de décapitalisation de Rome, la grande cité qui ne s'en remettra jamais.
Et d'ailleurs, c'est aussi le début d'une division qui allait durer, puisque d'abord, les empereurs aussi vivront à Milan. Ils ont vécu. Rome a été délaissée par les empereurs à un moment donné, et jusqu'à ce que le dernier, Romulus Augustule, qui avait 16 ans, qui a gouverné à peine quelques mois, est renversé donc par Odoacre, par les invasions barbares. C'est la fin de l'Empire? Pas tout à fait, puisqu'avec Byzance, il va se prolonger encore pendant 1000 ans.
Effectivement, et je pourrait même rajouter qu'en Occident, une partie de la tradition perdure dans les monarchies qui prendront place dans les différents pays, et les tentatives futures de reconstituer certains saints empires romains, par exemple, même si les germaniques. Et donc, il y a en même temps une survivance à Constantinople, effectivement très longue, mais avec des institutions qui n'ont plus rien à voir avec l'empire né de la Respublica, avec Auguste à la fin du 1er siècle avant notre ère.
Quand vous dites survivance, je pense par exemple à l'Empire russe qui était gouverné par un tsar. Tsar, le mot vient de César.
Tout à fait.
Et bon, il y en a eu d'autres. On peut dire que Napoléon aussi, évidemment, connaissait très bien l'histoire romaine et celle des empereurs, et que d'une certaine manière, il s'en était inspiré pour le devenir lui-même en 1804, Stéphane Benoît.
Oui, et auparavant déjà pour concevoir le consulat. C'est effectivement que toute la génération des révolutionnaires est baignée de ces antiquités, et n'oublions pas qu'auparavant, il y a eu des ouvrages majeurs comme l'ouvrage de Montesquieu sur l'Empire romain.
Merci Stéphane Benoît, puisque vous parlez de livres, justement, je recommande la lecture du vôtre, qui est un livre très technique, hein, d'universitaire, Rome, le prince et la cité, qui a été édité aux presses universitaires de France, et qui évoque surtout les grandes cérémonies qui exaltaient le culte de l'empereur. Vous êtes également l'auteur de La fête à Rome, publié chez Latomus, à lire également le dictionnaire de l'Antiquité, sous la direction de Jean Leclanc, qui vient de paraître au PUF. Vous avez pu entendre des extraits de Covadis, donc de Mervyn Leroy, disponible en vidéo chez Warner, Caligula, de Tinto Brass, La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann avec Sophia Loren, d'ailleurs, disponible en DVD chez Opening, et enfin Fabiola d'Alessandro Blasetti avec Michel Morgan, et puis la voix que l'on vient d'entendre et qui était celle de Michel Simon, et édité chez Film Office. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Christophe Papon, documentation Claire Tesser et Camille Pouc-Jalaguier, une réalisation de Anne Kobilac.
France Inter, il est 14h30.
Pas idée d'appeler son chien Maïoulé.